Salut, c'est la revanche des hérissons.
La revanche des hérissons.
Une émission en non-mixité, trans, PD, Gwyn, meuf et féministe.
Ça va piquer. Ça va gratter.
On parle de l'actu.
On fait des reportages.
On dit nos coups de cœur.
On s'amuse.
On met de la musique. On parle de lutte.
On prend la parole
et on la donne.
Et aussi, on fait un agenda.
Vous connaissez l'histoire de Paf le hérisson ? C'est un hérisson qui traverse la route et paf, le pneu.
Bonjour, vous écoutez bien la revanche des hérissons sur Jet FM à Nantes 91.2 ou sur radiorageuse.net. Vu qu'on s'est dit qu'on voulait commencer l'année tout doux, on débute avec la diffusion d'une émission de notre plateforme chérie. C'est la classe. C'est la classe, c'est une émission de radio proposée par deux personnes issues de collectifs de radio féministes sur Radio Canu. Et qui aborde le thème de, vous l'aurez deviné, la classe.
Classe, pas classe.
Ce qui est classe, c'est ce qui ne l'aime pas.
Alors, ça va pas causer des dernières friperies tendances ou de comment assortir son mulas, sa salopette, mais plutôt de classe sociale. Ce que c'est, d'un point de vue féministe et antiraciste, pourquoi est-ce que c'est un sujet dont on débat rarement, dont on parle peu dans nos milieux militants? Et ça pose quoi comme statut, comme postulat? Bref, je vous laisse découvrir. On vous diffuse donc l'épisode 1 de C'est la classe. Bonne écoute!
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
C'est la classe.
Je suis né dans la bourgeoisie, j'ai vécu dedans.
C'est pas l'argent, c'est la tête dans la tête.
Une émission pour disséquer la bourgeoisie.
Je n'ai absolument pas honte du tout de ce que je suis, au contraire.
On ne vous le dit pas.
Je n'ai pas à le dire, il faut que je le sois, c'est tout.
Il n'y a pas spécialement des manières particulières. C'est simplement la bonne éducation.
Écoute, mon père n'a jamais pris un repas dans une cuisine. Jamais.
Une émission pour disséquer la bourgeoisie.
C'est la classe.
La classe.
Et bonsoir.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2.
Et donc, on commence cette émission radio à plusieurs volets. On est deux personnes issues de collectifs de radio féministes. Et le premier volet introduira la notion de classe sociale et les différentes bourgeoisies.
Mais pourquoi parler de la bourgeoisie?
Eh bien, parce qu'après de multiples discussions et constats que la classe, la question de la classe dans nos milieux militants n'était pas assez abordée, on s'est dit qu'on avait envie de s'y mettre. Et puis, on a eu envie d'aborder la question de la classe avec nos points de vue féministes et antiracistes, loin de penser que le capitalisme est la lutte principale et la base de toute oppression, contrairement au dernier bouquin de Beau et Noiriel qui s'appelle « Race et sciences sociales ».
On a eu envie de parler et d'étudier la bourgeoisie pour renverser la tendance qui veut que soit les minorités ou les minoritaires ou les personnes appartenant à des classes sociales dites populaires se fassent étudier. Aussi parce que de nombreux codes et valeurs bourgeoises se retrouvent dans les pratiques militantes et dans nos différents milieux militants. C'est très visible pour nous qui ne venons pas forcément de classe bourgeoise et on souhaiterait que ce soit un sujet à discussion. Alors, arrêtons de scruter les pauvres et allons voir ce qui se passe du côté des riches. Mais alors, qu'est-ce que la classe sociale ?
Eh bien, si on le dit rapidement, la classe sociale, c'est un groupement d'individus qui partagent des intérêts communs et qui est situé dans des rapports de production. Les deux classes sociales les plus connues et antagonistes sont le prolétariat et la bourgeoisie. Le prolétariat se trouvant en bas du rapport de production et la bourgeoisie en haut. Alors Karl Marx complexifie la notion de classe sociale puisqu'il distingue la classe en soi et la classe pour soi. La classe en soi désigne un ensemble d'individus qui partagent objectivement des conditions de vie similaires mais sont dénués d'attaches réciproques. Ils ne sont pas représentés par une organisation politique et n'ont aucunement conscience de former un groupe social cimenté par des intérêts communs. Alors pour être plus clair, Marx prend l'exemple de la paysannerie française qu'il compare à des pommes de terre entassées dans un sac. Donc les paysans ne forment pas une véritable classe sociale. Pour atteindre le stade de la classe pour soi, il faudrait que ces petits producteurs prennent conscience de la place qui est la leur et des intérêts partagés que collectivement ils pourraient défendre. Selon Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, la bourgeoisie est à présent le seul groupe social où sont collectivement pensés des intérêts communs de classe, en même temps que s'y développent des relations entre ses membres destinées à perpétuer des frontières vis-à-vis de ceux qui n'en sont pas.
Je dirais qu'il y en a beaucoup. Mais alors, si je dois en donner un, je dirais que ce qui m'énerve, c'est plus qu'agacé, c'est le fait qu'on nous parle d'une France du mérite, où, grâce à l'école et le travail de chacun, on pourrait arriver à avoir des métiers intéressants, des vies épanouies, alors que en réalité, nous sommes toujours dans une France de l'héritage, et ce sont toujours des familles très fortunées, des dynasties familiales, qui tiennent les rênes de notre pays depuis plusieurs siècles. Il y en a un autre, ça serait le fait que, par exemple, aujourd'hui, on nous dit qu'on est dans une société où il y a un ascenseur social, un continuum, on part du bas et on va jusqu'en haut, et quand on parle de classe sociale, ce que nous faisons, mon mari et moi, on a l'impression de dire un gros mot. Alors que vous verrez que nous sommes dans une France où il y a véritablement une guerre des classes qui est ce que j'appelle moi la langue de bois, c'est-à-dire que au lieu de parler vrai, au lieu d'essayer d'approcher au mieux de la réalité des rapports sociaux, on est toujours dans des contournements. Hein, et les clichés font partie de cette langue de bois, c'est-à-dire ne pas affronter les choses telles qu'elles sont. Et ça rend fou, hein, ça rend fou, parce que du coup on est dans un brouillard idéologique qui s'épaissit et qui fait que votre pensée est mise à mal et vous en souffrez parce que vous n'arrivez plus à avoir les mots exacts pour désigner votre souffrance. Je pense que ils font partie d'une guerre psychologique, ils font partie d'une guerre de communication, ils font partie d'une façon de ne pas appeler un chat un chat.
Et alors, vous venez d'écouter Monique Pinson-Charlot et maintenant une petite musique qui s'appelle Disco Beach.
C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm a crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that grows next to you. C'est pour la petite bourgeoisie qui plane à Hawaï. Qui se paie des plus diamants à coupe de champagne. I'm a crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that grows next to you. Just recording that track for all the bitches out there. Shaking their ass like they just don't care. Like they just don't care. T'as passé ta vie à prendre ton temps. Du fric en masse que tu caches dans tes gants.
la bourgeoisie est si peu étudiée?
Alors, bah, en fait, on est allé voir plein de livres. Et l'un des livres qu'on est allé voir, ça s'appelle « Voyage de classe » de Nicolas Jounin. En bref, c'est un sociologue. Il a enseigné à l'Université Paris 8 Saint-Denis pendant 7 ans. Et pour initier ses étudiants et étudiantes à la démarche sociologique, il les emmène dans les quartiers bourgeois du 8e arrondissement. L'enjeu, en fait, c'est de renverser l'habitude qui veut que ce soit ceux d'en haut qui inspectent l'existence de ceux et celles d'en bas. Et ça permet, en fait, d'aller découvrir, de voir différentes normes et valeurs, etc. Alors, pourquoi la sociologie des classes hautes est si peu étudiée? Bah, tout d'abord parce qu'en fait, les grandes enquêtes sociologiques, à partir du 19e siècle, elles n'ont pas arrêté d'enquêter les plus pauvres. Il y a eu des disciplines entières dont la sociologie qui sont construites autour de l'auscultation, qu'elles soient méprisantes ou solidaires, compassionnelles ou indignées. Qu'ils ou elles donnent leur consentement ou qu'ils ou elles y soient contraintes, les membres des classes populaires sont rarement célèbres et pourtant sous le feu de multiples projecteurs. Pourtant, il n'y a pas de pauvres sans riches en vrai. Prétendre étudier la société en s'attachant aux uns et en oubliant les autres, c'est comme effacer en fait un continent en fait d'un planisphère. C'est se rendre borgne. En France, les rares recherches sur les riches, les classes sociales hautes, l'élite, la bourgeoisie, sont le fait de chercheurs assez confirmés, appointés et ayant accès à certains milieux. Par exemple, dans Sociologie de la bourgeoisie de Monique Pinceau-Charlot et Michel Pinson, ils soulignent que définir un seuil de richesse n'existe pas, car elle est multidimensionnelle et vient complexifier l'approche. Par contre, le seuil de pauvreté, lui, est couramment utilisé pour apprécier l'ampleur des problèmes sociaux dans les comparaisons internationales. Les statisticiens discutent sur les notions de pauvreté absolue et de pauvreté relative. Peut-il y avoir une pauvreté absolue qui serait définitive sur la base du minimum calorique assurant la survie? En tout cas, la notion de richesse absolue n'a, elle, aucun sens. D'ailleurs, on ne dispose pas d'indicateurs qui permettraient de comptabiliser et d'étudier la haute société. Et maintenant, une petite surprise.
Bienvenue dans Questions pour des bourgeois, un quiz spécial pour savoir si vous venez de milieux favorisés.
Alors, première question.
Ignorez-vous le montant du salaire d'un ou de vos deux parents?
Sont-ils, elles, propriétaires d'un logement, de plusieurs logements?
Avez-vous une ou des maisons de famille pour les rassemblements familiaux?
Allez-vous recevoir un héritage financier ou recevez-vous déjà un ou des héritages?
Avez-vous suivi des cursus spécifiques prestigieux comme sciences politiques, écoles privées, classes préparatoires?
Avez-vous construit des relations militantes au sein de ces écoles? Avez-vous commencé à militer dans ces lieux et continué à l'extérieur?
Connaissez-vous des catégories sociales élevées dans votre entourage comme journaliste, avocat, avocate, juge, etc.?
Enfant, vos parents ou un membre de votre famille vous emmenaient-ils, elles, dans les musées de façon régulière?
Allez-vous au théâtre, à des concerts ou à l'opéra de manière régulière?
Connaissez-vous les prénoms de vos arrière-grands-parents?
Considérez-vous que vous êtes bourgeois-bourgeoise?
Avez-vous grandi avec des employés de maison?
Si vous répondez oui à des questions, ce sont des indicateurs de capital social et économique. Vous faites partie des classes hautes. Peut-être se questionner après sur sa place et l'entre-soi.
Et nous voilà de retour sur Radio Canu 102.2 après ce petit interlude de quiz. Maintenant, je vais vous parler d'une petite expérience personnelle. Je me souviens qu'en deuxième année d'études de sociologie, un de mes profs nous avait dit qu'il valait mieux éviter d'étudier sa famille. Ça m'avait fait un peu rire parce que quand sa famille fait partie de tous les critères que les sociologues et militants s'intéressent, on fait quoi? De plus, les textes émanuels qui s'adressent aux apprentis enquêteurs-enquêtrices imaginent plutôt pour eux ou elles des situations asymétriques dont ils ou elles seraient les dominants-dominantes. Même question, mais quand tous les sujets représentent d'où l'on vient, après on peut nous reprocher la subjectivité. Ah, douce subjectivité. Ben, en réalité, l'objectivité de recherche n'existe pas. Cela est un biais et juste l'accepter permettrait d'éviter de renvoyer des personnes concernées à cette subjectivité et d'éviter de continuer le processus de légitimité des classes plus hautes à nous étudier. On va vous donner un petit exemple. Qu'il est utile de suivre jusqu'au bout. Au début des années 70, la SNCF a recruté des centaines de travailleurs marocains, profitant d'un accord entre la France et de son ancienne colonie du Maroc. L'entreprise les a utilisés pour les travaux les plus durs et dévalorisés. En même temps, ces travailleurs marocains étaient exclus du statut de cheminot, qui était réservé aux seuls Français embauchés avant leurs 30 ans. Bien que recrutés jeunes, ces travailleurs marocains ne bénéficiaient ni des avantages ni des conditions de retraite que le statut procurait en vertu d'une préférence nationale. Ceux qui ont fini par acquérir la nationalité française étaient alors trop âgés pour intégrer le statut. À cette discrimination de droit, fondée sur la nationalité et l'âge, s'ajoutaient au quotidien des discriminations de fait. Refus d'inscription en formation ou d'avancement, maintien dans les postes les plus durs, alors que le fait d'être hors du statut de cheminot n'interdit pas en droit une progression de carrière. C'est leur origine, maghrébine, et pas seulement une nationalité étrangère, qui servait de prétexte à leur mise à l'écart. Mais ils n'étaient pas mis à l'écart au sens d'une exclusion. Ils étaient bel et bien mis à contribution. Leur force de travail était utilisée et moins bien rémunérée que celle de leurs collègues. C'est pourquoi plus de 800 de ces travailleurs marocains ont porté plainte contre la SNCF et finalement obtenu gain de cause en appel en janvier 2018 après des années de procédure. En 2015, leur dossier devait atterrir sur le bureau d'une juge. Cette juge est française, puisque la préférence nationale s'applique aussi à la magistrature. Mais le dossier lui a été retiré par sa hiérarchie, considérant que son ascendance marocaine mettait en cause son impartialité. Cela montre que le stigmate et la discrimination va au-delà des questions de nationalité. Il renvoie une origine, plus ou moins lointaine, plus ou moins fantasmée. Et surtout, ce renvoi à l'origine n'est activé que pour certaines catégories de population, pas pour toutes. On n'a pas porté le même soupçon de partialité pour un magistrat blanc jugeant les propos racistes d'Éric Zemmour, ou une catholique jugeant les actes pédophiles d'un prêtre, ou encore un homme jugeant les accusations de viol portées contre Dominique Strauss-Kahn. Si on revient un peu sur cette place des enquêteurs et des enquêtrices, souvent l'enquêteur-enquêtrice occupe une position supérieure à l'enquêté dans la hiérarchie des différentes espèces de capital économique, culturel, etc. notamment. Et il ou elle revient donc à dire qu'il faudrait réduire la violence symbolique que ceux ou cette dernière subirait et non celle qu'il ou elle exercerait. Les apprentis chercheurs-chercheuses sont rarement dans une position dominante, tant par l'âge que par leur statut social en devenir. Néanmoins, s'il s'agit également de femmes, personnes minorisées, d'origine populaire, non blanches, étudiant dans une université de banlieue, c'est-à-dire appartenant à des catégories symboliquement dévalorisées et voyant matériellement leur opportunité réduite. Pour peu que les personnes enquêtées, soient l'envers d'un tel profil, hommes blancs, mûrs, intégrés dans des postures sociales hautes, représentant d'une bourgeoisie, d'une place spécifique, au milieu militant, alors l'écart qu'il faut réduire entre les places pour une étude sociologique n'est pas favorable à celles et ceux qui mènent l'enquête. Si on reprend un peu le livre de Salima Amari, Des lesbiennes de l'immigration, Elle explique que si l'étude du statut de l'espace privé dans la classe ouvrière en France a été beaucoup moins étudiée que l'organisation collective du monde ouvrier, c'est certainement le cas contraire concernant les immigrés en général, maghrébins en particulier. En effet, après les premières émeutes en France dans la banlieue Est de Lyon en 81, le regard institutionnel, juge, éducateur et animateur sociaux, est porté sur les dites familles défaillantes. Le regard culturaliste, c'est-à-dire de voir des habitudes et des coutumes comme spécifiques d'une population, maintient ainsi le regard extérieur porté sur la sphère familiale, et tout se passe comme ce qui est explicitement reconnu aux classes moyennes. Le respect de l'intimité, la liberté d'être soustrait à un regard évaluateur n'avait pas de raison d'être dans les milieux populaires.
Et on va s'écouter une petite musique qui s'appelle Class War et de Drowning Dog et Malatesta.
Class War!
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
Drowning dog.
Coming through, check, check.
Class consciousness, pop.
The class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class war.
This is about
community.
This is about
freedom.
Now. This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Always forced to do things that I don't want to do.
You know, shit job for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war. It's a class war.
Class war. Class war.
Class war.
Yeah, yeah. Fuck yeah. Class conscious.
Class conscious.
Class conscious.
Class conscious.
Class conscious hip hop.
It is a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game.
Capitalist scum fuck.
That it's a rich man's game.
It's about power.
Who has power? And who doesn't?
It's a class war.
Say it loud.
It's a class war. It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war.
Can you hear me now?
So it's a class war.
Yeah.
It's a class war, it goes on every day. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war.
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 What's class got to do with it?
It's about power. It's about power.
Who has power and who doesn't?
Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay.
I'm a class conscious.
Mala, mala, mala besta.
Class conscious. Hip hop.
The state.
The government.
Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. What?
Mala, 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 mala.
A bang-a-lang-a-lang right here. EK crew bring your class war. Malatesta on production.
You know.
Uh-huh.
Yeah, yeah.
Class war.
Mais alors, c'est quoi la bourgeoisie ?
Un bourgeois, c'est quoi?
Je suis très petit bourgeois. Je me réveille le matin pour travailler, je mange ce que je dois, je fais un peu d'exercice. Vous savez, je lis, je joue de la musique. Ma vie pour une personne extérieure, et même pour moi, n'est pas du tout excitante.
Bourgeois. Le bourgeois qu'on envoie toujours à la figure, pour un oui, pour un non, est toujours le bourgeois de quelqu'un, comme vous le savez.
J'avais un grand-père qui disait ce qu'il faut, c'est choquer le bourgeois. C'est vrai que c'est vachement, c'est quelque chose d'intéressant à faire parce que c'est les gens qu'il faut réveiller. Il faut réveiller leur conscience si c'est possible.
Je n'ai absolument pas honte du tout de ce que je suis. Au contraire,
vous ne vous le dites pas.
Je n'ai pas à le dire. Il faut que je le sois, c'est tout.
Le goût bourgeois ancien, c'est-à-dire les gens de vieille roche, comme disait Marx, qui sont du côté du sort, du raffiné, de la double négation, de la litote, du refus de l'épate, de l'étalage, et tout ça. Bon. Ce qui est d'abord, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. C'est le dégoût du goût des autres.
Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont des grosses voitures, la plupart du temps sont bourgeois parce que ça va avec, mais c'est pas ça, c'est pas l'argent, c'est la tête, c'est dans la tête. Il faut penser comme tout le monde, il y a le camp dira-t-on.
Bourgeois, c'est devenu quelque chose de tellement vague ce mot de bourgeois. D'abord, c'est devenu une injure, puis c'est devenu un terme politique, puis économique. Je crois que sur le plan humain, le bourgeois, c'est celui qui a des provisions, qui a des traditions, qui a des relations, qui a de l'argent sans doute, qui a une possibilité de plan d'avenir, qui a des garanties, qui a de la sécurité.
J'étais issu de la bourgeoisie et d'une bourgeoisie que je n'ai pas beaucoup appréciée, dont je n'ai pas apprécié le comportement, en particulier avec ma mère qui était donc devenue quelqu'un de pauvre, qui était devenue la cousine pauvre. J'ai vu ce que c'est, l'extrême cruauté de cette classe, en tout cas telle que j'ai pu l'observer.
Moi je suis bourgeois, je suis né dans la bourgeoisie, j'ai vécu dedans, et je mourrai dedans, vraisemblablement. Il y a une chose qui me déplaît dans la bourgeoisie, c'est l'apparence, enfin c'est ce goût de l'apparence qui est absolument insupportable.
Et voilà, une petite présentation de la bourgeoisie. Alors la bourgeoisie, eh bien, c'est ce qu'on a vu, c'est la classe qui possède les moyens de production. Elle apparaît comme classe sociale au XIXe siècle, où elle entre en concurrence avec la noblesse et l'aristocratie. La bourgeoisie, c'est une classe très vaste, parce qu'elle va de la petite bourgeoisie, des artisans, des fonctionnaires, des employés, qu'on peut confondre avec la classe moyenne un peu, à la haute bourgeoisie industrielle, en passant par la moyenne bourgeoisie des commerçants et professions libérales, comme médecins, avocats, architectes, etc. On peut donc observer au sein de la bourgeoisie des situations et des modes de vie très variés, mais qui ont en commun de vivre au-dessus de la moyenne des Français-Françaises. Par exemple, vivre bourgeoisement, c'est bénéficier de conditions matérielles d'existence confortables ou extrêmement confortables, des revenus de travail réguliers et très élevés, des métiers enrichissants, des employés de maison, la possibilité de partir en week-end et en vacances dans des résidences secondaires ou des maisons de vacances. Mais si être bourgeois, c'est être à l'abri du besoin de manière durable parce qu'on a plein d'argent et ne pas avoir de risque de perdre cette situation, la bourgeoisie ne se limite pas à l'argent. En fait, l'appartenance à la bourgeoisie, ça se matérialise plutôt par des comportements et des codes sociaux qui servent à marquer la distance entre les bourgeois et les autres et qui fonctionnent comme une barrière infranchissable pour celles et ceux qui n'en sont pas. Des petits exemples.
Si les gens viennent chez les Rothschild, ils s'attendent quand même à un autre service de table que ce qu'ils ont à la maison, c'est normal. Et ici, on essaie de conserver une forme de tradition.
Juste une petite question, est-ce qu'on souhaite bon appétit à ces invités?
Ah non, non, bien entendu.
Oh non, jamais.
Tu as entendu la question?
Non.
Alain, mademoiselle demande si l'on souhaite bon appétit.
J'ai
répondu non. Jamais.
Non. Tant qu'après, si on parle là-dedans, on peut dire n'importe quoi aussi.
On peut
à
dire
la graille aussi, on dit, ou bonne graille.
Que faites-vous lorsque vous avez un voisin à droite et un voisin à gauche, qui, logiquement, sont des messieurs? Par qui commencez-vous la conversation? Avec qui? La logique fait le premier plat à droite. Vous vous adressez à votre voisin de droite qui est un chirurgien et vous allez avoir la conversation avec vous. Le deuxième plat, c'est ce monsieur qui va être, admettons, je ne sais pas moi, coiffeur à gauche. Et au dessert, vous faites ce que vous voulez, vous parlez avec qui vous désirez.
Tout ça, vous pensez pas que c'est quelque chose qui est un peu désuet, qui est...
Et bien sûr que c'est élitiste et superflu. Mais tout dépend pour qui, si vous n'en avez pas besoin. Je vais pas aller me précipiter en vous disant, enlevez vos coudes sur la table, mangez la bouche fermée, ne buvez pas en parlant, enfin, des tas de choses qui sont pas nécessaires. Mais vous pouvez avoir tous les diplômes de la Terre, sortir de HSC, de l'ENA, de Centrale, si vous êtes mal élevé. Vous irez une fois chez les gens, vous n'irez pas deux fois.
Je me dis que je serai amenée à avoir des dîners, parce qu'à cause du boulot, je vais avoir peut-être plus tard.
Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard?
Attendez, vous permettez, à cause de quoi?
Du travail.
Parfait, ce mot boulot, enlevez-le aussi, s'il vous plaît. Qu'un ouvrier puisse dire je vais au boulot à la rigueur. Mais une jeune fille ne va pas au boulot puisque vous aimez ce que vous faites, donc vous allez travailler.
Et voilà, c'était une petite intervention de Nadine de Rothschild qui nous explique les bonnes manières. Et on peut regarder les différents types de richesses qui font la bourgeoisie. Donc on a parlé de la richesse économique. La richesse des bourgeois s'est accumulée en exploitant les prolétaires de la métropole, mais également par la colonisation. Les grands bourgeois ont ainsi profité d'une exploitation capitaliste et raciste, dont l'illustration la plus criante est le travail forcé, mis en place dans les colonies à partir du 19e siècle jusqu'en 1946. Les travailleurs forcés des colonies n'étaient en général pas, ou peu, soutenus par les organisations syndicales et politiques du mouvement ouvrier en métropole. Ces indigènes réquisitionnés ont payé cher les grandes constructions de l'État colonial. Par exemple, la société de construction des Batignolles, connue aujourd'hui sous le nom de SPI Batignolles, a ainsi été chargée des travaux de chemin de fer entre Brazzaville et Pointe-Noire. Sur les 140 premiers kilomètres, 17 000 travailleurs indigènes y ont trouvé la mort. Le taux de mortalité de ce chantier était de 57% en 1928. Et la société de construction des Batignolles, elle appartient à la famille Gouin, qui est une dynastie de banquiers et d'industriels.
Alors, si on représente la société comme une pyramide, en haut il y a 1% qui accapare toutes les richesses, ensuite il y a les médecins, puis les classes moyennes, et ensuite les ouvriers. Si on coupe le haut de la pyramide, qu'est-ce qui se passe ?
Pas grand-chose. Alors que si on coupe le bas, tout s'écroule. Alors, une autre forme de richesse de la bourgeoisie, c'est la richesse scolaire, qui se définit comme le fait d'avoir des titres scolaires élevés et de fréquenter des écoles bourgeoises, celles qui forment les futures élites, par exemple l'ENA, l'ENS, HEC ou Sciences Po. Les écoles internationales permettent une maîtrise de l'anglais, notamment par des séjours organisés à l'étranger, qui préparent les jeunes bourgeois et bourgeoises à une future mobilité internationale. C'est dans ces écoles que les jeunes fabriquent des liens avec leurs pères, et en particulier des liens internationaux avec des enfants d'ambassadeurs, par exemple. C'est ainsi qu'ils et elles commencent à construire leur capital social.
Mais alors, qu'est-ce que le capital social ?
Le capital social, c'est l'ensemble des relations professionnelles, amicales et familiales mobilisables par l'individu. Il est indispensable pour penser la bourgeoisie. Le fait de posséder les bonnes adresses, d'appartenir aux bonnes familles est la clé d'entrée dans la haute société. Cela permet d'accéder au dîner pour augmenter toujours plus le capital social ou de pouvoir faire participer ses enfants au rallye. Les rallyes, ce sont des endroits où les enfants bourgeois sont regroupés dès l'âge de 10 ans pour faire connaissance avec leurs semblables, socialiser, apprendre à se reconnaître entre pairs et donc par la suite nouer des relations intimes dans un entre-soi bien contrôlé qui permettra de ne pas diluer le patrimoine, mais au contraire de le renforcer. Et pour accéder au cercle bourgeois, il faut être coopté, c'est-à-dire être reconnu comme bourgeois ou bourgeoise par ses pairs. C'est par la cooptation que la bourgeoisie maintient ses frontières vis-à-vis des autres classes.
Et maintenant, une petite écoute sur ce qu'on appelle le bottin mondain.
Si jamais Charles-Henri, qui rend service à Anne-Laure, renvoie l'ascenseur à Charles-Henri. C'est-à-dire que ça fonctionne toujours, chaque représentant de cette classe, chaque membre de cette classe, est censé rendre service être dans le don et le contre-don avec tous les autres membres de cette classe. Même si on ne se connaît pas, il suffit de savoir que vous occupez, vous êtes un tel. Alors, du coup, ça c'est très important parce que je vous ai apporté un bottin mondain. Là, c'est le bottin mondain 2020 qui est tout en couleur, qui nous permet de pénétrer comme ça dans un intérieur chic des beaux quartiers. Quand vous pouvez pas connaître tous les membres de votre classe, donc là, le bottin mondain représente, je crois qu'il y a 120 000 mentions. C'est vraiment la noblesse, c'est vraiment les grandes dynasties bourgeoises, c'est-à-dire, on peut dire, dans le bottin mondain, c'est la naissance qui est valorisée. Le bottin mondain, c'est vraiment l'aristocratie de l'argent. Et du coup, c'est leur livre de chevet, et ils vont toujours voir comme ça, tiens, celui-là, le baron Bertrand le Normand de Flagac, que je ne connais pas, que je viens de trouver là. Je regarde, je sais qu'il sera invité au repas où je suis invitée, et je regarde avant qui il est. Je vois que sa femme est née Florence de Sachet, donc il y a le patronyme familial de l'épouse. J'ai l'adresse précise, et puis j'ai l'école fréquentée et les cercles auxquels il appartient. Donc du coup, avec une sociabilité mondaine qui fonctionne de manière très solidaire, très solidaire, très dans le partage, très dans le communisme, très dans le collectivisme pratique. Voilà, il faut que il y ait des instruments comme ce bottin mondain pour que chacun puisse savoir qui est qui, et qu'au fond, la classe fonctionne par un système de cooptation de tous les instants.
Et voilà un joli livre de chevet. Hein.
Mais alors, pour pouvoir accéder à ce livre, il faut faire partie de cette classe.
Et, ouais.
Et il ne vaut, on avait vu combien, 280 euros.
Ouais, quelque chose comme ça.
Ouais, 280 euros.
Une modique somme.
Et après, il y a aussi le bottin mondain par région. Et de manière internationale, il y a ce qu'on appelle le Who's Who.
Donc on a vu la richesse économique, la richesse scolaire, le capital social, et il y a également le capital culturel. Alors lui, il est nourri par le fait de posséder des œuvres d'art, de courir les ventes aux enchères pour en acquérir et en accumuler, au point de faire de véritables musées dans les résidences bourgeoises. C'est aussi le fait d'aller régulièrement au théâtre ou à l'opéra. Et ce capital culturel, bien sûr, il contribue à la richesse scolaire. Il y a également le patrimoine. Alors, ça fait partie des richesses des familles bourgeoises, et puis c'est un enjeu, parce qu'il s'agira de ne pas le disperser, surtout ce patrimoine. Donc le patrimoine, il peut être à la fois un capital d'entreprise, des immeubles, des machines, des actions, et également des biens familiaux, des propriétés immobilières, du mobilier, des œuvres d'art, des bateaux de plaisance, etc. Donc le mariage des bourgeois, il est central dans la bonne perpétuation du patrimoine. Il s'agit de se marier entre familles de position sociale équivalente pour maintenir et entretenir toutes les formes de capitaux possédés. Donc l'endogamie des mariages bourgeois est une manière de garder la fortune à l'intérieur du groupe. Et dans les grandes familles, les mariages se font entre cousins et cousines de manière assez fréquente. Et c'est comme ça que les bourgeois et bourgeoises peuvent maintenir et reproduire leur position de classe.
Mais alors, c'est quoi le capital symbolique ?
Le capital symbolique, donc un peu la dernière richesse de la bourgeoisie, elle est représentée par les noms de famille. En effet, les patronymes indiquent les richesses matérielles et immatérielles détenues par la famille. Les possessions, mais aussi les relations, le patrimoine et les savoirs. Par exemple, sortir d'une grande école, connaître un nombre de personnes importantes, être dans les grandes réceptions, etc. Autant de choses qui contribuent au capital symbolique. C'est un peu comme on l'a entendu avec le bottin mondain. C'est les grands noms, c'est toutes les personnes, comment elles sont reliées, etc. Et la violence symbolique, elle est associée à ce capital. Parce que le capital symbolique, il offre aux riches l'estime de soi et l'assurance qui leur permettent de dominer symboliquement le reste de la population. Ainsi, un patron n'aura pas à faire pression sur l'ouvrier pour que celui-ci accepte le salaire bas proposé ou les conditions de travail déplorables.
Bah alors pourquoi ?
Parce que l'ouvrier est en position d'infériorité. Il est intimidé par la puissance du bourgeois, parce qu'il n'a pas fait d'études, parce qu'il n'a que sa force de travail, etc. C'est ça qu'on nomme la violence symbolique. Donc, tout est fait pour que les bourgeois se repèrent entre elles et eux, mais aussi pour qu'on ait conscience, nous qui ne sommes pas bourgeois, qu'ils sont bourgeois. Et je me souviens de cette remarque de ma grand-mère. Elle avait une boîte de gâteaux en fer avec une illustration en noir et blanc d'enfants du début du XXe siècle, bien habillés et qui ne souriaient pas. Et elle m'a dit « Ah, c'est bien des bourgeois pour tirer la gueule comme ça ». Et alors, si on ne peut pas dire que les pauvres rigolent tous les jours, en revanche, la construction du mépris des autres est donc de tirer la gueule, en regardant tout le monde de haut, est tout à fait bourgeois. C'est de ça dont parlait ma grand-mère. Nos corps et nos comportements sont marqués par la classe d'où l'on vient. Eh ben, on va s'écouter une petite musique.
Une petite musique de Nina Simone.
Ain't got no friends, ain't got no nothing.
Et alors maintenant, on va un peu conclure. Et on sait que ce premier volet, il a pu être un peu dense. Et là, on va plutôt conclure sur la question de l'entre-soi et la question de la loi sur le séparatisme qui est passée le mois dernier, pour montrer un peu les incohérences en fait du texte de loi et qu'est-ce que ça veut dire pour certains l'entre-soi et pour d'autres. On va expliquer un peu tout ça. On allait voir un peu un texte de Sylvie Tissot qui écrit beaucoup dans...
Les mots sont importants.
Exactement. C'est bien d'être deux cerveaux, n'est-ce pas? Et elle a écrit un article en fait qui se nomme « Entre-soi et les autres ». C'est-à-dire que la notion d'entre-soi désigne le regroupement de personnes aux caractéristiques communes, que ce soit dans un quartier, une assemblée politique ou encore un lieu culturel. Elle peut sous-entendre l'exclusion plus ou moins active et consciente des autres. Cette mise à distance d'autrui peut être revendiquée au nom de la supériorité d'un groupe. Par exemple, les blancs d'une société ségrégée, les nobles ou grands bourgeois d'un club fermé. À l'inverse, elle est parfois le mot d'ordre des groupes opprimés. Les femmes ou les personnes racisées revendiquant la non-mixité des luttes, les gays et lesbiennes se créant des espaces protégés dans la ville. Parfois, l'entre-soi se constitue contre l'espace public ou professionnel au sein de la sphère familiale et domestique. C'est là où se définissent aussi les identités de classe. Si les phénomènes que recouvre cette notion sont nombreux, les entre-soi ne sont pas perçus de la même façon. Elles ne font pas tous l'objet du même traitement. Considéré comme contraire aux valeurs d'une société démocratique et égalitaire, l'entre-soi des plus riches ou encore des hommes est souvent entretenu dans le secret, et son existence euphémisée ou tout simplement niée. Par exemple, les réseaux de pouvoir qui se tissent dans les old boys clubs et les cercles réunissant personnalités politiques, patrons ou encore journalistes apprécient peu que l'on entr'ouvre leurs portes. Quand elle n'est pas le fait des élites, l'intégration dans des groupes intermédiaires à travers les sociabilités amicales, la famille, les églises ou encore des lieux associatifs, syndicaux de loisirs est souvent valorisée, voire jugée nécessaire à la vie sociale. Mais lorsqu'elle rassemble des groupes stigmatisés, ces activités tombent souvent sous l'accusation de repli communautaire. Fameux mot, très décrié à l'heure actuelle, etc. Mais alors pourquoi en fait d'un côté c'est un entre-soi et de l'autre côté c'est un repli communautaire ? C'est quoi ? C'est juste une notion de comment on voit en fait le phénomène. Enquêter sur les entre-soi suppose de pénétrer des lieux souvent tenus cachés. Le secret en effet n'autorise pas seulement l'aménagement des règles ou leur contournement. Les secrets dits d'initiés permettent de préserver le groupe en le protégeant contre les intrus et en entretenant un sentiment d'appartenance à travers des rituels spécifiques.
Les microcosmes reposent aussi sur des relations tissées de longue date et un sentiment de confiance et de connivence qui se traduit justement dans le fait de se sentir entre nous. Les enquêtes consacrées aux quartiers résidentiels montrent d'abord à quel point l'exclusivité contrôlée des espaces est une dimension de la domination sociale. L'entre-soi est en effet activement recherché. Jouir des grandes avenues, des espaces verts et des paysages implique d'être en petit nombre. En partager l'accès est source de promiscuité, parfois de confrontation non désirée. Mais l'entre-soi est aussi un moyen permettant d'accumuler d'autres ressources. La reproduction des positions par le contrôle de la conjugalité des jeunes, le secret dans lequel se tissent les alliances politiques, le maintien du capital symbolique consacré par des adresses prestigieuses. Donc on voit bien que l'entre-soi est recherché et validé chez les bourgeois. C'est quelque chose... voilà.
Acquis.
Acquis, c'est ça. Même il y a des bourgeois qui affirment un truc de toute manière, on est tous toutes cousins, quoi. Mais quand il s'agit de personnes minorisées, eh bien à ce moment-là, l'entre-soi, il est décrié. Il est considéré comme une menace pour la République, et c'est en ça qu'on peut le voir dans le texte de loi sur le séparatisme, qui est une illustration assez parlante de ce traitement très différencié entre, disons, les bourgeois, ou en tout cas les classes hautes, et tout ce qui est considéré comme classe minoritaire et minorisée, et là, en l'occurrence, par rapport aux musulmans.
Et alors donc... Notre premier volet va s'achever un peu comme ça, sur ces quelques mots. Mais déjà, on voulait vous dire qu'on était très contents et contentes d'avoir fait cette émission aujourd'hui. et que on espère que ça n'a pas été trop dense. On sait que le premier volet était un peu dense, c'était pour poser un peu des bases, etc. Et que les prochains volets, on fera ça plus... Il y aura plus d'interviews, plus de choses comme ça. Mais c'était pour poser un peu les marques aussi, un peu de qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, pour continuer après. On a un peu l'envie, après, d'aller voir dans le rapport au corps, comment le rapport au corps et peut être perçu, en fait, comment la bourgeoisie et comment les classes hautes, en fait, on peut le percevoir aussi dans leur rapport au corps, aussi dans les logements, dans différents... Donc, on a un peu l'idée de faire plusieurs volets.
Plein. On va continuer tranquillement de disséquer la bourgeoisie sous tous ses aspects.
C'est super, en vrai, pour une fois, de l'autre côté, c'est génial. Eh ben, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés ce soir sur Radio Canu 102.2. On va terminer par une petite chanson pour ensuite laisser la place à l'émission d'après. On vous souhaite à bientôt.
Et on s'écoute une chanson de Prince Felaga, Lutte des classes.
Au revoir.
Salut, ciao.
Ciao.
C'est la vie jusqu'à l'homicide. Non, j'ai plus envie de rire. Je vais faire sauter la banque. J'ai plus rien à perdre. Quand même, putain, dans son manque. Y'a plus rien qui me tient. Kamikaze palestinien. J'ai grandi dans la rue. La rue m'a nourri au sein. Trafic de stupéfiants. Arnaque, Fraco, Rosel. Finir ma vie à cette rampe avec El Jack. Rosel, Karl, Marx, Adam, Smith, Coca, Light, Stan, Smith. Tous les jours, 6 heures. Tous les jours, métro, taf, gosse, école, béton, passe, coffre, monnaie. C'était classe, 6 heures, classe, métro, taf, gosse, école, béton, passe, coffre, monnaie, compteur, place. C'était classe.
Tu cours après le temps, mais c'est le temps qui court après. Y'a tu cours après le temps, mais c'est le temps qui court après. Y'a tu cours après le temps, mais c'est le temps qui te court après. Y'a tu cours après le temps, mais c'est le temps qui te court après.
Cours, marche, speed, crève, 24 images, seconde, Spielberg, vite, speed, vite, vite. Dans moi la main, je sens que je tombe dans le vide. Sans que j'ai violence gratuite, rencontre fortuite, ascenseur émotionnel, ta vie c'est de grand vide. Cours, marche, speed, crève, tic-tac, le temps t'achève. L'apocalypse, au loin, stésine, putain, nazi, d'adrénaline. Ma jeunesse se flingue doucement, la cocaïne. J'ai ce putain de robot, je représente comme smile. Tous les jours, 6 heures, tous les jours, métro, taf, gosse, école, le temps passe, coffre, monnaie, compteur. C'était classe, 6 heures, classe, métro, taf, gosse, école, le temps passe, coffre, monnaie, compteur, place. C'était classe.
Tu cours après le temps, mais c'est le temps qui te court après. Y'a tu cours après le temps, mais c'est le temps qui te court après. Y'a tu cours après le temps, mais c'est le temps qui te court après. Y'a tu cours après le temps, mais c'est le temps qui te court après. Yeah.
que des dollars, ça toute l'année, où les trouver? Je fais des pesos dans tous les sens, les dépenser. J'ai pas trouvé la solution pour en gagner trop. Et quand j'en ai, je donne. J'ai brûlé toutes les réserves qui me restaient, non, non. Et comme j'en veux des tonnes, je me prends au jeu, le cache-cache, je vais le trouver maintenant. Hey, il pleut des dollars, mais pas chez moi. J'ai quelques millions de retard sur mon schéma. La vie comme un traquenard, t'en reviens pas. Je veux juste empocher des milliards en pyjama. J'ai plus de dollars, là, là. Rester chez moi, faut que je descende. Je crois que j'ai un plan. La solution, si je suis à plat. Smith et Wesson, main sur le trésor et ma dinero. Je vais changer la donne. Retrouver toutes les réserves que j'ai brûlées. Non, non. Et comme j'en veux des tonnes, je me prends au jeu, le cache-cache, je vais le chercher maintenant. Hey, il pleut des dollars, mais pas chez moi. J'ai quelques millions de retard sur mon schéma. La vie comme un traquenard, t'en reviens pas. Je veux juste empocher des milliards en pyjama. J'ai plus de dollars, là, là.
D'écouter l'épisode 1 de C'est la classe. Rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode. C'était La Revanche des Hérissons, 91.2 et sur radiorageuse.net.
La Revanche des Hérissons sur Jet FM 91.2.